bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. En ce lundi matin, nous entrons dans la dernière semaine de campagne avant les élections européennes. En Autriche, ce week-end, la coalition droite-extrême droite a explosé avant ce scrutin. Et ce, après un scandale lié au vice-chancelier, nous irons à Vienne dans un instant. Vous entendrez ensuite les arguments des uns et des autres sur l'affaire Vincent Lambert, du nom de ce patient tétraplégique en état végétatif à Reims. Les traitements pourraient s'arrêter cette semaine. Ses parents évoquent de nouveaux recours. Et puis, qu'est-ce qui attend Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine? Il prendra ses fonctions officiellement ce matin, malgré les réticences du Parlement ukrainien. Et l'on commence donc par la coalition autrichienne entre la droite et l'extrême droite. Elle a volé en éclats ce week-end après un an et demi au pouvoir. Le chef de l'extrême droite, Heinz Christian Strache, a démissionné. Une vidéo compromettante le liant à un homme d'affaires russe l'a poussé à quitter son poste de vice-chancelier. Et puis dans la foulée, le chancelier conservateur Sebastian Kurz a annoncé des législatives anticipées, Isorias.
Les élections législatives anticipées pourraient se tenir dès début septembre. C'est en tout cas le souhait du président autrichien Alexander Van der Bellen, qui s'est exprimé hier après un entretien avec le chancelier conservateur Sebastian Kurz. En revanche, on n'en sait pas plus pour le moment sur le gouvernement qui assurera la transition jusqu'à la tenue de ces élections. Pour tenter d'y voir plus clair, Sebastian Kurz devrait rencontrer dans les jours à venir les chefs des différents partis politiques. L'opposition a déjà fait savoir qu'elle ne souhaitait pas que les ministres actuel du FPE reste dans ce gouvernement de transition. Elle préfère qu'il soit remplacé par des experts. Ce qui est sûr, c'est que le FPE ressort affaibli de toute cette affaire à quelques jours des élections européennes. Le parti a perdu son chef, Heinz Christian Strache. Il dirigeait le FPE depuis 2005, mais a dû déléguer cette fonction à Norbert Hofer. Difficile de faire autrement après la diffusion de cette vidéo accablante pour lui, dans laquelle on le voit, entre autres, promettre à une prétendue nièce d'oligarque russe, l'attribution de marchés publics en échange d'un soutien financier au parti.
Isorias, depuis Vienne pour France Culture, une affaire qui intervient, soulignons-le, à 6 jours des élections européennes. Les européennes et la campagne en France, à présent. Ce week-end, La République En Marche a attaqué le Rassemblement National sur le thème des influences étrangères. Ministres et responsables de la majorité ont multiplié hier les critiques contre le RN. RN qu'ils accusent d'être inféodé à Donald Trump, à Vladimir Poutine, voire d'être dans la roue de l'Italien Matteo Salvini. Nous en venons à cette attente qui débute ce lundi. Les traitements de Vincent Lambert pourraient s'arrêter cette semaine après validation du Conseil d'État. Les parents de Vincent Lambert, tétraplégique et en état végétatif depuis 10 ans, ses parents continuent toutefois de se battre. Ils dénoncent une euthanasie déguisée. Et dans leur viseur maintenant, le médecin de leur fils, le docteur Vincent Sanchez, chef du service des soins palliatifs à l'hôpital de Reims. Écoutez à ce propos maître Jean Payot, l'avocat des parents, parlant donc du docteur Sanchez.
C'est lui qui va exécuter cette décision d'arrêt de traitement, comme il l'a dit, à partir de ce 20 mai 2019. Or, sa décision, si elle a été validée par les juridictions nationales, n'a pas encore été confirmée par les juridictions internationales que nous avons saisies. Sa décision n'est donc pas définitive. Et donc, dès lors qu'il y a des mesures provisoires qui s'imposent tant au gouvernement français qu'au docteur Sanchez, celui-ci a l'obligation de les prendre en compte. Par conséquent, si celui-ci exécute malgré tout sa décision, eh bien, il prend le risque que les juridictions pénales qualifient cet acte de tentative d'assassinat.
Et pourtant, le Conseil d'État a bien validé cet arrêt des traitements, arrêt qui s'inscrit dans la droite ligne de la loi Claeys-Leonetti. Vincent Morel est spécialiste soins palliatifs au CHU de Rouen et il l'explique.
La loi Claeys-Leonetti n'est pas qu'une loi sur la fin de vie, elle est d'abord une loi pour tous les malades, pour lutter contre l'acharnement thérapeutique et s'assurer qu'ils seront bien au cœur des décisions qui les concernent. Dans l'affaire Vincent Lambert, le Conseil d'État a confirmé à 2 reprises, à la fois en 2014 et en 2019, que nous nous trouvions bien dans une situation d'obstination déraisonnable. Il est maintenu en vie simplement par une hydratation et une nutrition artificielle. Et aux 2 reprises, ils ont également confirmé la volonté indirectement exprimée par M. Lambert de ne pas vivre une telle situation.
Des propos recueillis par Daniel Messager. Les blocages débutent en ce moment même. Blocages et manifestations de chauffeurs de taxi, d'auto-écoles et d'ambulanciers à Paris, mais également à Strasbourg, Toulouse ou Dijon. Ils se mobilisent à l'appel de 4 syndicats et 1 association. Et les motifs sont variés, Guillaume Gaven.
Tous se disent mobilisés contre l'ubérisation.
Même si leurs revendications n'ont rien à voir, c'est bien l'avenir de leur métier qui est menacé selon eux. Les taxis sont les plus remontés contre la future loi LOM, loi d'orientation des mobilités. Selon les syndicats, le texte rompt le fragile équilibre trouvé par la précédente loi, équilibre entre taxis et VTC, les Uber, Hitch et autres captains. Dans leur collimateur, des dispositions ambiguës qui permettraient de faire circuler les VTC sur des voies réservées ou qui les autoriseraient à stationner sur la voie publique. Un casus belli selon la CGT Taxi, une contre-vérité selon la ministre des Transports. N'empêche, il aura fallu le vote d'un amendement en commission en fin de semaine dernière pour lever l'ambiguïté. Les auto-écoles, elles, en sont leur quatrième journée de mobilisation depuis février, toujours contre les pistes du gouvernement qui veut faire baisser le prix du permis. Ça se fera, disent-elles, au détriment de la formation. Pas besoin de personnel pour des cours en ligne ou le simulateur.
La fin du vote en Inde. Les législatives auront duré 6 semaines pour 900 millions d'électeurs. Le Premier ministre sortant Narendra Modi pourrait en sortir vainqueur, mais sans majorité absolue a priori. Au Soudan, après plusieurs jours d'interruption, le dialogue a repris hier entre les militaires et les responsables de la contestation populaire. L'armée réclamait jusque-là la levée des barrages dans la capitale Khartoum. Les deux parties doivent maintenant s'accorder sur la composition d'un futur conseil souverain de transition. Les chefs de file de la contestation veulent qu'un civil dirige cette institution. Lui dirigera l'Ukraine après avoir remporté la présidentielle. Volodymyr Zelensky sera ce matin officiellement intronisé président. Mais un mois après son élection triomphale, l'ancien comédien se heurte déjà au Parlement national en Ukraine. Il est composé en majorité de la classe politique dont Zelensky dit vouloir se débarrasser. Le jour de son installation, par exemple, a fait l'objet d'interminables négociations avec le pouvoir législatif. Au point qu'une dissolution de la Rada, l'Assemblée ukrainienne, n'est plus à exclure, Claude Broyot.
La date de prestation de serment de Volodymyr Zelensky n'est pas la seule illustration du bras de fer engagé entre le nouveau président élu et l'Assemblée ukrainienne. La désignation du chef du gouvernement et celle des ministres risque de prolonger cette situation. En effet, d'après la constitution du pays, c'est le Parlement qui procède à cette démarche. À deux exceptions près toutefois, les portefeuilles très importants dans le contexte de confrontation avec la Russie, des affaires étrangères et de la défense. Dans ces deux cas, Volodymyr Zelensky peut soumettre ses choix à l'Assemblée. Le pari du nouveau président réside maintenant dans le fait que le Parlement ne pourra pas dégager une majorité dans les 30 jours qui lui sont désormais impartis pour le faire. À partir de là, Volodymyr Zelensky aura le champ libre entre soi dissoudre l'Assemblée et espérer surfer sur son score présidentiel pour gagner des législatives anticipées, soit plus improbable, mener d'habiles tractations pour s'attacher le soutien d'une majorité reconstituée à ses côtés.
Claude Brouillot, le correspondant de France Culture dans la région. Ils vont pouvoir sortir temporairement de prison. Les indépendantistes catalans, élus lors des dernières législatives espagnoles, assisteront aujourd'hui à l'ouverture du Parlement. Ils sont en détention provisoire depuis le référendum d'autodétermination de la Catalogne à l'automne 2017. L'Espagne, où se déroulera en même temps que les européennes ce dimanche, les élections municipales. À Barcelone, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre français, est toujours candidat. Et il est toujours mal placé dans les sondages, quatrième selon les dernières études. Sa campagne sur la sécurité ne semble pas convaincre Mélanie Nunes.
Dans un quartier huppé de Barcelone, des affiches de Manuel Valls placardées. C'est ici que vivent les électeurs de classe moyenne catalane qu'il voudrait séduire. Et pourtant, ils sont nombreux, comme Jaume, à douter de la candidature de l'ancien Premier ministre français.
C'est quelqu'un qui a été parachuté. J'en suis sûr qu'il connaît très bien la France, mais je m'en doute qu'il connaisse quelle est la réalité de Barcelone.
Quand il parle d'insécurité, par exemple.
Bon, Barcelone, c'est une ville qui n'a pas de problème d'insécurité.
Un programme loin des réalités où le logement et le travail sont des priorités, rappellent Raquel et Flora, sa fille.
L'éducation et la santé ne font pas partie de ces propositions pour les citoyens. Une personne qui vient d'ailleurs et qui nous dit ce qu'on doit faire à Barcelone, c'est non.
Manuel Valls doit aussi composer avec les indépendantistes, lui qui s'oppose à l'autonomie de la région. Josep lui adresse un message.
Retourne en France et règle les problèmes de la France. Tu n'y arriveras pas ici. Les Français n'en veulent pas, pourquoi nous en voudrions? Cet homme s'est trompé, il est venu jouer du pipeau. Il n'en a rien à faire de la Catalogne.
Et malgré les mauvais sondages qui prédisent une défaite, Manuel Valls l'affirme, sa vie politique est bel et bien en Espagne, quel que soit le résultat.
Retour en France avec le temps de ce lundi. Il sera globalement instable sur l'Hexagone, entre averses et éclaircies, de l'orage même cet après-midi, l'Île-de-France jusqu'au centre Val-de-Loire et sur l'Occitanie. Comptez ce matin 13 degrés à Clermont-Ferrand et à Lille, 15 à Paris et Lyon, 16 à Strasbourg et Bordeaux, 18 degrés à Perpignan.